Galaxy.
24 heures en France. Christophe Paget.
Et on revient au foot avec cette question. Quelles sont les raisons qui poussent un footballeur de haut niveau à quitter un club pour un autre ? Mercato, qui est sorti en salle ce mercredi en France, nous entraîne dans les coulisses du foot business. L'acteur Jamel Debbouze incarne un agent de joueur qui n'a que 7 jours pour réunir une énorme somme d'argent. Sophie Torlotin a rencontré le réalisateur de ce thriller, Tristan Seguela.
Tristan Seguela, bonjour.
Bonjour.
Dans Mercato, votre nouveau long-métrage, on suit Driss, un agent de footballeur. Il a 7 jours exactement pour la fin du Mercato, donc le marché, la vente et l'achat de joueurs professionnels par les grands clubs. 7 jours pour rassembler une énorme somme d'argent qu'il doit à des créanciers peu recommandables. Ce film, Tristan Seguela, c'est une manière de montrer tous les dessous du foot business.
Oui, exactement. C'est une manière d'emmener le spectateur dans l'arrière-cuisine du monde du foot, du milieu du foot. Les agents ont mauvaise réputation, surtout dans le football. On dit d'eux que c'est des espèces de parasites qui se nourrissent sur la bête, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, puisqu'ils existent, c'est de me mettre dans ses pas et de m'intéresser à un agent en particulier, donc Driss Berzan dans le film, 4 gros ennuis. Et à partir de là, d'imaginer un récit tendu, un thriller qui va nous plonger dans la traversée du miroir du foot business.
Tu nous dois 300K.
300 000 euros où ?
J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne ne me parle.
Driss, effectivement, il a des ennuis, il est seul, il peut pas compter sur sa force physique. Enfin, il est malingre, il est petit. Il a un atout, c'est sa maîtrise du verbe.
Absolument, c'est ça l'atout maître de Driss. Et il se trouve que avoir la chance de voir Driss incarné par Jamel Debbouze, évidemment, c'est pas innocent. Jamel manie la langue comme aucun autre. Et c'est vrai que ce rôle-là lui va comme un gant.
C'est Jamel Debbouze qui a apporté l'idée de ce film ?
Oui, il avait envie depuis longtemps, je crois, de porter un film sur le foot, mais qui ne soit pas un film comme les autres. Qui soit un film qui ose dire aussi les travers du milieu, qui ose être vrai, qui ose être documenté, qui ose être très contemporain. Parce que lui a la chance de côtoyer des joueurs professionnels pratiquement depuis qu'il est né. Il a grandi avec Nicolas Anelka. Après, Zinedine Zidane, il a eu la chance de le côtoyer aussi. Et aujourd'hui, il est très proche de, par exemple, Kylian Mbappé. Ça lui donne une espèce de connaissance très profonde, très intime du milieu, qui lui a inspiré de la fiction.
Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls, parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière.
On le disait, Driss, il a le sens de la répartie, bah, comme Jamel Debbouze. En même temps, est-ce que votre film, Tristan Seguela, est très écrit? Ou est-ce qu'il a laissé la part à l'improvisation?
Alors, le film est très écrit par deux scénaristes à qui je tiens à rendre hommage, Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut, avec qui j'avais travaillé sur la série Tapis. Ça n'empêche que Jamel, j'ai laissé quand même cette espèce d'espace de liberté, de recréation parfois des dialogues, mais c'est pas tous les dialogues. Certains disent que on n'a jamais vu Jamel comme ça. Je peux difficilement dire le contraire au regard du reste de sa filmographie, même s'il n'a pas du tout servi que des rôles comiques. Mais paradoxalement, le Jamel que je connais, il n'est pas si éloigné que ça de Driss. Et s'est livré à ce personnage, peut-être comme jamais. Et ça provoque parfois une espèce de trouble que moi, je trouve assez formidable.
Tristan Seguela, merci.
Merci beaucoup.
Mercato de Tristan Seguela est sorti ce mercredi sur les écrans de l'Hexagone. On s'intéresse maintenant aux épiceries solidaires qui font face à un sérieux problème. Les besoins sont de plus en plus importants et il y a de moins en moins de dons. Un constat dressé par l'ANDES, le réseau des épiceries solidaires, dans son observatoire 2025. Alors comment font ces épiceries pour faire face à cette situation compliquée ? Benoît Narbonne s'est rendu dans l'une d'entre elles à Arcueil.
Il est 10h, les premiers bénéficiaires entrent faire leurs courses à l'éclaircie. Parmi eux, Stéphanie, mère célibataire de 3 enfants.
Comme légumes, je crois que j'ai pris de la patate douce. Moi, j'ai pris beaucoup de fruits, parce que mes enfants consomment beaucoup de fruits. Des oranges, kiwis.
Les économies réalisées lui permettent de payer ses factures. Elle fait partie des 45 familles inscrites à l'épicerie solidaire. C'est son assistante sociale qui l'a orientée ici.
Là, en fait, je suis en congé parental et mes ressources sont largement diminuées. Vu que j'ai plus de paye, je me retrouve à l'épicerie parce que j'en ai besoin. Heureusement qu'il y a ça parce que je ne sais pas comment je ferais. Parce qu'il y a des choses comme le lait, je vous dis les couches, c'est des choses qui coûtent relativement cher. Et du coup, en commerce, je ne pouvais pas les financer.
Ici, les produits ne sont pas gratuits mais ne coûtent que 10% du prix en magasin. Une démarche qu'explique Corinne, bénévole depuis 8 ans.
Je pense que l'estime de soi et pour pas avoir l'impression qu'on fait complètement la charité. C'est une petite participation, mais c'est une participation quand même. Ils ont l'impression d'acheter. Ça leur permet aussi de choisir ce qu'ils veulent. C'est pas comme dans certaines autres associations où on leur donne un panier tout fait.
Ces épiceries solidaires ne fonctionnent que grâce aux bénévoles qui sont de plus en plus difficiles à trouver.
C'est assez chronophage comme activité bénévole. On est obligé d'ouvrir toute l'année, toutes les semaines, sans interruption. Donc c'est un petit peu compliqué parfois.
L'épicerie propose fruits, légumes, œufs, viande, couches ou produits d'hygiène. Certains proviennent de collecte ou de banque alimentaire, mais une grande partie est achetée. La part des dons de magasin a baissé, comme l'explique Catherine Bouzou, responsable de l'éclaircie.
Les magasins vendent à 30-40%, donc les gens, bien sûr, achètent. Et après, ce qu'il leur reste, c'est ce que personne n'a voulu acheter. Donc souvent, c'est de très mauvaise qualité. Ou alors, les produits, ils ont 2-3 mois périmés. Ça n'a plus de sens pour nous.
Elle a décidé d'arrêter la récolte en magasin dès le mois prochain. L'éclaircie n'est pas une exception. De 2022 à 2023, les dons récoltés dans les magasins ont baissé de 29%, estime l'ANDES. La capacité maximum de l'épicerie est de 45 familles. Elles sont inscrites sur une période de 6 mois, renouvelable une fois.
Il va y avoir plus de dossiers. Il y a des familles qui vont sortir, il y en a des nouvelles qui vont arriver, ce qui permet qu'il y ait plus de familles arcueillaises qui puissent avoir accès à l'épicerie.
Plus de 2/3 des épiceries solidaires indiquent être au maximum de leur capacité d'accueil, alors que les demandes de bénéficiaires augmentent.
Un reportage de Benoît Narbonne, RFI 19h19 bientôt à Cayenne.
Le journal des Outre-mer.
Et un spectaculaire comeback cette semaine du débat autour de l'exploitation, ou non, des ressources naturelles et notamment pétrolières de la Guyane. Benoît Ferrand, bonsoir.
Bonsoir. Le sujet, récemment remis sur la table par le sénateur guyanais Georges Patient, a en effet reçu un soutien de poids, comme on dit, celui du ministre des Outre-mer et ancien Premier ministre Manuel Valls. Une position qui ne fait pas l'unanimité, il faut le préciser, au sein du gouvernement, mais une simple question de bon sens, selon, en tout cas, le vice-président de la collectivité territoriale de Guyane, Jean-Luc Leveste. Il est au micro de Jesse Xavier.
J'ai envie de vous dire, enfin, on reconnaît qu'il serait bon que la Guyane puisse vivre de ses ressources et les exploiter. Et je pense que c'est un sujet qui va pouvoir permettre de rassembler toute la classe politique autour de ce même sujet et de permettre véritablement que notre territoire puisse avoir accès à cette ressource qui est à notre portée et qui doit être exploitée depuis bien longtemps. On sait que cette loi ILO nous a posé un problème. On sait que cette loi ILO nous a aujourd'hui empêché de pouvoir continuer à véritablement exploiter notre sous-sol comme nous le souhaitions. C'est pas gagné, mais c'est important de comprendre que si la classe politique guyanaise avance à l'unisson sur ce sujet, que l'État va l'entendre. Et qu'aujourd'hui, je peux entendre Madame la Ministre, je peux entendre un certain nombre de partis politiques qui sont contre, mais la Guyane a besoin de vivre de ses ressources, a besoin d'aujourd'hui de pouvoir se développer, et au moment où l'État se pose des questions sur ses propres ressources financières, elle a la possibilité, c'est de permettre à un territoire tel que le nôtre de s'émanciper et de véritablement vivre de ses propres ressources.
Il est en poste depuis 3 semaines et il se dit très surpris par une situation et un niveau de violence auquel il ne s'attendait pas forcément. Michel Halleux est le nouveau directeur territorial de la police nationale en Martinique. Il répondait ce mercredi matin en direct aux questions de Grégory Gabour sur les ondes de la Première.
Toutes les autorités se rendent compte qu'il y a un vrai sujet à la Martinique. Je le rappelle, on est pratiquement plus de la moitié des saisies de cocaïne en France. Au niveau des armes et des vols à main armée, nous avons des taux qui sont au-delà de ce qu'on peut constater sur des territoires comparables, ultramarins d'ailleurs ou métropolitains. Et une fois de plus, simplement pour rappel, hein, l'année dernière, en zone police, nous avons eu 17 homicides, ce qui est énorme. Cette année, nous sommes déjà à 2 homicides en zone police, 2 en zone gendarmerie. Donc voilà, ces armes sont un vrai fléau.
Mais d'où viennent ces armes? Vous le savez, nécessairement?
Alors oui, on a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment par le STPJ et puis la gendarmerie. Essentiellement, ces armes arrivent à 70% des États-Unis. Avec des délais qui sont de plus en plus courts, ça veut dire que les armes sont achetées légalement aux États-Unis. Et pratiquement, quelques semaines, quelques mois après, on les retrouve sur le territoire martiniquais. Donc ce sont des armes qui sont récentes, qui sont en capacité de faire de gros dégâts, parce que ce sont des armes de gros calibre, souvent même des armes de guerre. On a des fusils d'assaut, hein, qui sont utilisés. Et donc derrière, voilà, on a une capacité à tuer qui est très importante.
Michel Halleux, nouveau directeur territorial de la police nationale en Martinique. On termine avec une actualité plus positive, ce cocorico pour Air Caraïbes. Le transporteur aérien, bien connu des Antillais et des Réunionnais à travers sa filiale Frenchby, entre cette année dans le top 20 des meilleures compagnies aériennes, au nez et à la barbe de ses autres concurrentes tricolores. Franck Aristide, la première Guadeloupe.
16e au niveau mondial et première compagnie française pour son entrée dans le prestigieux World Best Airlines Awards 2025. Air Caraïbes se fait particulièrement remarquer. Le palmarès des 25 meilleures compagnies aériennes s'établit à partir de critères très scientifiques tels que la sécurité, la ponctualité, la conformité réglementaire, ainsi qu'à partir d'aspects plus subjectifs tels que les retours d'expérience des passagers, le service client ou le confort à bord. Une véritable reconnaissance et une fierté pour le directeur général d'Air Caraïbes. Éric Michel y voit la récompense du travail fourni et de l'innovation. D'autres compagnies desservant les Outre-mer figurent dans ce classement, mais plus à la traîne, Air France à la 21e place, Air Calin à la 23e et Air Mauritius à la 24e. Un résultat pour le groupe Dubreuil qui vient donc contrebalancer le classement Air Help 2024 sur les questions de ponctualité, de service et d'avis vie des clients, dans lequel Air Caraïbes avait dégringolé de 56 places l'an dernier, alors qu'Air France en avait gagné 3. C'est notamment sur la ponctualité et l'efficacité du service qu'elle avait enregistré les moins bons scores.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand. Bonne soirée.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
La lecture, c'est passionnant. L'écriture, c'est pas mal non plus. Et parfois, elle soigne. On en parle avec Caroline Paré et son invitée.
Naila Chidiac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et spécialiste du traumatisme psychique chez les adultes. Quels sont les troubles ou traumatismes psychiques que l'écriture thérapeutique peut soulager?
Pratiquement tous. En fait, si la personne aime bien écrire, veut bien essayer cet exercice, parce qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes à cause de mauvais souvenirs de l'école, mais ça peut aider et guérir toute personne qui a eu un traumatisme psychique.
Est-ce qu'on peut se lancer seul dans ce processus d'écriture thérapeutique, ou est-ce qu'il faut absolument être accompagné?
Si le traumatisme est profond, avec des symptômes qui sont propres au trauma, qui sont persistants, il est bien sûr préférable de se faire accompagner, sinon on risque de tomber dans une certaine répétition traumatique. Parce que un des symptômes du traumatisme, c'est la répétition, soit par les cauchemars, soit par les réviviscences. Donc on est en boucle. Et donc, on va écrire en boucle. Et le but des ateliers d'écriture ou bien d'un accompagnement thérapeutique est de faire sortir la personne de cette boucle répétitive traumatique.
Est-ce que les personnes qui écrivent un journal se soignent sans le savoir?
En tout cas, ça leur est indispensable, en le sachant ou en ne le sachant pas, mais en tout état de cause, ça les fait tenir en temps de guerre, mais aussi en temps de vie normale.
Merci Naila Chidiac. Vous avez signé le livre « L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature » aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, l'actualité des maladies émergentes, Mpox, Marburg, Ebola, mais aussi la grippe aviaire, plusieurs flambées épidémiques qui sont loin de faire les gros titres 5 ans après la pandémie de Covid-19. On va parler du suivi de la surveillance de ces périls infectieux à l'heure des bouleversements politiques aux États-Unis qui rebattent les cartes de la santé mondiale. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré et à tout à l'heure. Afrique Soir touche à sa fin. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation et à François Ballarin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir, En attendant, Carnet Rose, une chauve-souris géante des Comores est née en captivité en France. C'est une première, ça s'est passé dans le parc Biotropica du Val-de-Reuil dans l'Eure. Alors ces chauves-souris sont aussi appelées renards volants de Livingstone. Elles peuvent atteindre près de 1,50 m d'envergure. Celle qui vient de naître en France appartient quand même au gouvernement comorien. L'objectif, c'est de les placer en captivité pour préserver l'espèce qui disparaît dans l'île entre déforestation et dérèglement climatique. Mais d'abord, avant Afrique Soir, un point sur la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
C'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones se reprend 71 points et clôture à 44 627. Le Nasdaq, lui, grappille 15 points et revient à 20 056. L'annonce de nouveaux droits de douane de l'ordre de 25% qui frapperont probablement dès le mois d'avril les importations américaines d'automobiles, de produits pharmaceutiques et de certains semi-conducteurs. Ces annonces faites par le président Trump pour l'instant sont bien digérées par Wall Street. Les surtaxes à l'importation pourraient tout de même à court terme être un facteur d'inflation, estime la Banque centrale américaine, mais le rendement du T-bond à 10 ans aujourd'hui est stable à 4,54. Le sang-froid des marchés est assez impressionnant, surtout si l'on rappelle que 89% des investisseurs jugent aujourd'hui que les actions américaines sont surévaluées. Il est vrai que, paradoxalement, les plus belles hausses de Wall Street se produisent précisément lorsque le degré d'inquiétude est élevé. En jugé par le léger recul de l'once d'or aujourd'hui, de moins de 0,5%, l'inquiétude en tout cas est un peu retombée aujourd'hui. Journée noire pour les actionnaires de Nikola. Le constructeur automobile spécialisé dans les voitures électriques dépose son bilan. L'action s'effondre de quelque 39%. Belle hausse en revanche de quelque 10% du cours d'Analog Devices, le fabricant de semi-conducteurs, présente des performances trimestrielles supérieures aux prévisions. L'euro chute à 1,0424, le baril de pétrole américain s'offre moins d'1% et revient à plus de 72 $. L'indice Dow Jones arrache 0,2%, le Nasdaq s'offre 0,1% et l'indice S&P 500 établit un nouveau record en grappillant 0,2%.
RFI, la sélection du mois. Ben l'oncle Soul.
I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home.
Benjamin Epps.
5 gosses de 5 pères différents. Viens, je t'emmène chez le jeune, là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime.
Wow. Bad Bunny.
Si te quieres divertir.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.